Cinéma Cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, le communautarisme sexuel au cinéma, l'homosexualité, première partie. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, la question de l'homosexualité est toujours apparue au cinéma avec des hauts et des bas, si je puis dire, une dimension critique, une dimension ironique, une dimension qui déforme. Donc, le problème, quand je parle de communautarisme sexuel, c'est qu'il y a parfois, et surtout quand il y avait des problèmes, un repliement d'un groupe sur lui-même. Alors, quelques remarques rapides pour évoquer ce que sont les différents communautarismes, avec d'ailleurs des illustrations cinématographiques. Les différents communautarismes classiques, c'est le territorial, le religieux, le sexuel, avec une tradition différente suivant les États. Donc, le communautarisme territorial. Alors, la France, ici, est différente d'un État comme l'Allemagne ou les États-Unis, qui est un État fédéral, ou l'Espagne et l'Italie, qui sont des États régionalistes. Donc, dans ces États, on va accepter que des groupes aient une identité, une culture, parfois une langue, comme au Québec. Et donc, la reconnaissance de minorités est tout à fait acceptée. Et donc, on va, au niveau local, déterminer qui peut être considéré comme une communauté ou pas. Alors, en France, il y a une absence de différence entre les groupes. C'est la question de l'égalité d'un individu par rapport à l'autre, donc égalité qui empêche de définir un groupe par une identité particulière. Cependant, en France, il faut préciser que ce communautarisme territorial apparaît depuis une trentaine d'années. C'est la Nouvelle-Calédonie qui a commencé et maintenant on a une discussion sur le statut de la Corse. Alors sur la Corse justement, il y a trois films particulièrement intéressants à citer. Ce sont des films réalisés par Thierry de Peretti. Les Apaches en 2013, Une vie violente en 2017 et À son image en 2024. Alors sans en reprendre la description de l'intrigue dans chaque film, déjà sur 2017, on suit des membres du FLNEC et dans le film de 2024, là on poursuit sur une vingtaine d'années toute la discussion, toute la contestation qui va émaner du Front de Libération de la Corse, avec le jusqu'au boutisme des militants les plus ridicules faisant des conférences de presse armées et masquées. Donc quoi qu'il en soit, le communautarisme territorial, c'est un groupe qui est identifié à l'intérieur d'un État comme formant une entité particulière. C'est ce communautarisme qu'on retrouve dans le domaine religieux. Alors, quelle est cette revendication ? De tout temps, des religions ont voulu apparaître comme des groupes qui défendent leur identité et parfois veulent imposer leur identité. Alors, on a la question musulmane depuis quelques années. Et il y a eu des films qui ont été tournés de manière assez originale et avec une thématique particulière. La désintégration de Philippe Faucon en 2011, on voit un recruteur et extrémiste musulman qui va endoctriner des jeunes et les désintégrer pour qu'ils deviennent des terroristes. On a le jeune Ahmed des Frères d'Ardennes, où poussé par un imam, un jeune évolue vers le fanatisme. Et dans L'adieu à la nuit d'André Téchiné, c'est une grand-mère qui lutte contre l'endoctrinement de son petit-fils. Donc si je définis ces deux communautarismes, c'est pour montrer comment on veut identifier un groupe par son élément principal. Alors le communautarisme sexuel, c'est ce qui nous intéresse ici. On a l'homosexualité et il y a aussi, on le verra plus tard, la question des autres possibilités, si je puis dire, donc transgenre, etc. Donc pour le communautarisme sexuel, il y a un rejet dans la majorité ou dans l'unanimité des États jusqu'à la fin du XXe siècle. Et on a une affaire fameuse qui est celle d'Oscar Wilde, l'écrivain, qui a été emprisonné pour cette raison-là. Donc le problème du communautarisme sexuel a pu conduire aux États-Unis à ce qu'on identifie la mise en place d'entités particulières qui vont être d'abord définis par leur particularité homosexuelle et ensuite par leur appartenance aux États-Unis. Alors je caricature un petit peu, mais c'est pour montrer comment peut apparaître le terrorisme, le communautarisme sexuel. Alors, on a plusieurs musiques à utiliser ici. Alors, je vais utiliser une musique qui est une musique d'Edison, un film de 1895, où on voit deux hommes qui vont danser. Donc, juste la musique, et je vous expliquerai après de quoi il s'agit. Donc là, l'extrait qu'on vient de voir est en réalité un film à part entière, puisque les films à la fin du 19e siècle sont des films qui durent une minute ou deux minutes. Tout ce qu'on a appelé les films lumière dure une minute. Alors celui-ci, en fait, consiste à voir un homme qui joue du violon et deux hommes qui vont danser devant lui. Or, il n'y a aucune identification des deux hommes comme étant des homosexuels. Des hommes qui dansent entre eux, ça n'est pas forcément qu'il y ait une homosexualité. Il y a une possibilité de danser ensemble parce qu'il n'y a pas de cavalière. Donc la dénomination de ce film comme une sorte d'ancêtre de l'homosexualité n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait exact. Alors revenons à l'époque contemporaine avec ce communautarisme. Il y a donc dans des États des définitions différentes. Aux États-Unis, le communautarisme est consubstantiel à l'État, alors qu'en France, au contraire, c'est la logique de l'État-nation. Je suis désolé d'évoquer un petit peu tout cela, mais c'est pour comprendre d'où vient le communautarisme sexuel. Alors, bien évidemment, je ne vais pas insister sur le fait que vous connaissez tous. Dans de nombreux États, on pourrait dire presque dans la majorité des États du monde entier, donc on a 200 États et un certain nombre vont pénaliser l'homosexualité. On a en particulier les théocraties, donc les pays dominés par des éléments religieux, qui vont réprimer l'homosexualité avec des possibilités d'emprisonnement, avec des peines assez longues. Alors quand on examine quels sont les régimes autoritaires, il y a, je dirais, trois possibilités. La dictature simple, le régime totalitaire de type communiste où on doit exprimer une conviction identique à ce que veut l'État, et le système théocratique où il y a une vérité religieuse et on ne peut pas aller contre celle-ci. Donc cette vérité religieuse apparaît aussi dans les textes sacrés. Alors pour illustrer un petit peu le fait que avec la pénalisation de l'homosexualité, il y a un soubassement religieux, je vais vous donner quelques extraits rapidement de textes sacrés où le rejet de l'homosexualité est absolu. Bien sûr, les deux textes, c'est la Bible et c'est le Coran. Donc, un livre qui s'appelle le Lévitique, dans lequel on trouve la formule suivante. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce serait une abomination. » Et on retrouve cela un petit peu plus loin. Alors, les lettres de saint Paul, épître aux Romains, on trouve « Les hommes se sont enflammés de désir les uns pour les autres, commettant l'infamie d'homme à homme. » Donc l'homosexualité est une perversion majeure. Mais le problème, il y a une petite nuance. C'est-à-dire que David, vous savez, celui qui a tué Goliath quand il était plus jeune, il va être avec Jonathan, donc deux amis très proches. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? L'âme de Jonathan, dit la Bible, s'attacha à celle de David et il l'aima comme lui-même. Et à un moment donné, David va, après la mort de Jonathan, se plaindre de cette mort. Ton amour m'était plus merveilleux que l'amour des femmes. Donc, finalement, l'homosexualité peut apparaître de manière discrète. Pour le Coran, on a la sourate 7 qui dit « Abuserez-vous des hommes au lieu de femmes pour assouvir vos appétits charnels. » Sourate 26 « Aurez-vous commerce avec les hommes, abandonnant les femmes que Dieu a créées pour vous. Vous êtes un peuple criminel. » Donc, les deux textes vont assez loin dans la condamnation, c'est un crime, c'est une perversion, c'est une abomination. Donc, comment ne peut-on pas, à l'évidence, constater que s'il y a cette définition d'un rejet absolu de l'homosexualité, comment ne pas comprendre que par la suite, l'État qui applique une morale religieuse va interdire l'homosexualité ? Alors, on a, si je fais un saut dans le temps, quand même dans les arts, que ce soit la littérature, la peinture, la sculpture, etc., il y a des personnages homosexuels qui sont présents de manière incontestable. Pour s'en tenir à la littérature de fin 19e, début 20e, disons 20e, on a quoi ? On a Oscar Wilde que je citais, on a Cocteau, on a Gide, on a Genet, et on a même Proust qui va créer un personnage qui deviendra célèbre, qui est le baron de Charlus, homosexuel, aristocrate, qui occupe une place importante dans l'œuvre de Proust. Alors, pour le cinéma, que peut-on dire ? Alors, il faut d'abord préciser deux éléments d'entrée de jeu. Alors, les arts, effectivement, ont eu une importance dans la description de l'homosexualité, et le cinéma aussi. Et le cinéma, dès le départ, puisqu'on trouve les premiers films lors de mise en place du cinéma après 1895. Alors, il faut mettre à part les films pornographiques, puisque que ce soit hommes et femmes, ou deux hommes ou deux femmes, il y a dans les bordels une projection de films destinés un petit peu à exciter les esprits. Donc la question de l'homosexualité, au sens pornographique, remonte aux origines même du cinéma. Donc ça, c'est une première remarque. Et seconde remarque, alors là, il y a une particularité, voire une originalité, c'est la différence de traitement entre l'homosexualité féminine et l'homosexualité masculine. En effet, que voit-on dans la situation où c'est une homosexualité féminine ? Eh bien, les plus opposés à l'homosexualité vont dire « Ah oui, c'est pas mal, c'est une scène des vêtus avec deux femmes », et il se voit un petit peu au milieu de ces deux femmes. Par contre, alors là, c'est macho qui vont adopter une attitude amusée devant l'homosexualité féminine, vont rejeter avec dégoût une scène qui va comprendre deux hommes. Donc la manière dont on rejette est révélatrice de la violence par rapport à l'homosexualité masculine. Il y a finalement cette tolérance, cette acceptation, cet amusement par rapport à l'homosexualité féminine, mais pas avec l'homosexualité masculine. Et on va trouver une situation de rire quand il y a des homosexuels, en particulier des homosexuels masculins. Qu'est-ce qui va se passer au cinéma, comme ailleurs ? On a des plaisanteries, des situations comiques où les hommes seront extrêmement efféminés, vont faire des gestes qui identifient leur sexualité. Donc la manière dont l'homosexualité est décrite au cinéma, dans les décennies où le cinéma parlait, le cinéma muet parlant était créé, c'est plutôt une situation de comique hein, plus que d'adhésion à ses valeurs. Alors, il y a un film qui est un remake de film précédent, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est Victor Victoria. Ce film de Victor Victoria de Black Edwards au début des années 80 va mettre en scène la chanteuse Julie Andrews, et là j'ai retenu une chanson qui est The Jazz Hot. Elle montre comment le jazz est né. The Jazz Hot. About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music. And they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world was ready for a blue kind of music. And now they play it from Steamboat Springs to La Paz.
a hot maybe and don't ever let it end. I tell your friend it's really something to hear. I can't sit still when there's that rhythm near me. Maybe what's holding my soul together. Don't know whether it's morning or night. Only know it's sounding right. So come on in and play me the jazz hop, baby.
Dans les premières années où le cinéma existe, il faut distinguer l'homosexualité du travestissement. Alors le travestissement, c'est un élément qui se veut comique. Alors on relève parfois des couples où il y a des situations ambiguës. Deux comiques, Laurel et Hardy, on ne sait pas trop quelle est leur tendance, leur orientation sexuelle. Pourtant, leur hétérosexualité semble claire. Ils ont à plusieurs reprises des épouses. Remarquez, des épouses acariâtres. Dean Martin, Jerry Lewis aussi, possibilité. Donc, quoi qu'il en soit, à cette époque-là, disons le cinéma muet, les débuts du cinéma parlant, les hommes homosexuels sont représentés sous une forme stéréotypée. On va exagérer leur apparence efféminée pour que le public s'en rende compte et se mette à sourire. Charlie Chaplin, dans plusieurs films, va se travestir. Dans Madame Charlot 1914, il joue une femme. Dans Mademoiselle Charlot 1915, il veut séduire une jeune femme avec une surveillance attentive du père, donc il se déguise en femme. Et donc Charlot, grande coquette, il joue un acteur chassé du plateau par un réalisateur, il revient déguisé en femme. Donc le personnage lui-même va se déguiser. Et dans Charlot fait du ciné 1914, on a une croyance d'un acteur secondaire sur le fait que Charlot soit homo, et donc il va se mettre à tourner, à imiter tous les gestes qu'on peut imaginer. Donc, le ressort comique à cette époque-là, c'est vraiment se moquer de la sexualité hétérosexuelle, enfin plutôt la sexualité hétérosexuelle n'est pas remise en cause, et il n'y a pas le moindre doute. Le personnage est tourné en dérision, et il n'a pas de réalité, il n'a pas la moindre réalité homosexuelle. Alors, on a aussi Cary Grant qui se déguise en femme dans Aller coucher ailleurs. Donc, c'est un militaire qui se déguise en femme. Alors, autre sujet ambigu, les femmes faisant semblant d'être des hommes. Alors, on a passé Victor Victoria. C'est une version qui est de 1982 de Black Edwards avec Julie Andrews. Mais il y a eu d'autres versions. La première version, C'est un film de 1933. Puis il y a une version française, Georges et Georgette, tournée en 1934. Puis il y a un film britannique en 1935. En 1957, film allemand. Et on arrive au Victor Victoria de Black Edwards, qui est vraiment un chef-d'œuvre dans son genre. Et de même, on a d'autres films qui ont inspiré des remakes. Alors, on ne le sait pas souvent, mais le film Certains l'aiment chaud n'a pas été original. Il y a eu d'autres films avant, c'est-à-dire qu'on a eu Fanfare d'amour de Richard Potier en 1935, qui mettait en scène Fernand Gravet et Julien Carrette, et puis reprise dans Fanfare d'amour, finalement, en 1951. Mais le film le plus connu et qu'il a aussi été un chef-d'œuvre, c'est Certains l'aiment chaud, avec une chanson de Marilyn Monroe qui est extrêmement connue. La voici. Wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Daphne, your boyfriend's waving at you. Can both go take a flying jump. Remember, he's your date for the night, so smile. Oh, you can do better than that. Give him the teeth, the whole personality. Why do I let you talk me into these things? Why?
Because we're pals, buddies. The two musketeers.
Don't give me with the musketeers. How am I going to keep the guy ashore?
Tell him you get seasick on a yacht, play miniature golf with him.
Oh, no, I'm not gonna get caught the minute you're a sand trap with that guy.
Hi, which of you dolls is Daphne?
Beau Fettle.
It's from Satchel Moth at table 7. This is from me to you, doll.
Read it, Buster.
Never mind leaving your door open. I got a pass key.
I couldn't aspire to
What are you doing with my flowers?
Just borrowed. Get them back tomorrow.
And to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you.
Voilà, musique célèbre, et la dernière réplique est connue, est assez caractéristique du film, assez ironique. On a un milliardaire qui est amoureux de Jack Lemmon déguisé en femme, ils partent en bateau, et Jack Lemmon à un moment donné enlève sa perruque et dit « Je suis une femme ». Et le milliardaire répond « Personne n'est parfait », c'est la chute de ce film. Qui est amusante. Alors, effectivement, l'homosexualité apparaît dans tous les cinémas, dans le cinéma de tous les pays, mais effectivement, je ne peux pas tous les examiner, autrement, on y passera 3 heures. Donc, la focalisation sera sur le cinéma américain, le cinéma français. Cependant, je cite 2 ou 3 films qui sont présents dans certains États. Par exemple, dans le cinéma britannique, on a La Victime de Basil Dearden en 1963. Un homme marié voit un ancien amant qui vient le faire chanter. Bon. On a aussi en 1987 James Ivory qui a fait plusieurs films sur l'Angleterre classique. Maurice avec une difficulté de vivre un amour homosexuel dans l'Angleterre du début du XXe. Donc là, le cinéma britannique, on en trouve. Le cinéma espagnol, bien sûr, censure franquiste, rien. Puis explosion des années 70, Almodovar, bien sûr, La loi du désir, 87, par exemple. Du côté du cinéma italien, Visconti, Les damnés, en 1969. C'est l'ascension et la chute des membres d'une famille propriétaire des importantes, des plus importantes aciéries allemandes. Et donc ce film marque un rôle de Helmut Berger, dernier amant de Visconti, qui est une scène travestie, assez étonnante pour l'époque, et même il va violer sa propre mère. Donc le film est assez fort dans le domaine de ce travestissement qui entraîne ensuite cette sorte de perversion. Mais c'est surtout le travestissement qui nous intéresse ici en matière d'homosexualité. Alors le Visconti va aussi tourner un film Ludwig sur Louis II de Bavière qui est un de ses derniers films avec une durée choisie par le réalisateur de 4 heures. Et autre réalisateur italien, on est obligé de l'évoquer, c'est Pasolini qui était lui-même homosexuel et qui a filmé en noir et blanc des jeunes homosexuels, je dirais bruts de décoffrage, qui n'étaient pas des professionnels. Et ces films sont assez originaux là-dessus. Il y a des films asiatiques, il y a des films d'Amérique du Sud. Encore une fois, je ne peux pas tout citer. Alors, pour évoquer principalement le cinéma américain et le cinéma français, on peut avoir dans ces films une ambiguïté incontestable. Donc, par exemple, Steinberg dans Cœur brûlé, qui apparaît mettre en scène une homosexualité qui est présente. On a de Ruben Mamoulian en 1933, la reine Christine qui est lesbienne. Elle s'habille souvent en homme et elle a une proximité entre guillemets avec une de ses dames d'honneur. Donc l'homosexualité est présente, il n'y a aucune ambiguïté dans ce domaine. Alors pour les États-Unis, je signale une œuvre qui est intéressante. Il y a un film de 1995 qui s'appelle The Celluloid Closet et qui est consacré à l'homosexualité dans le cinéma américain et qui effectivement est particulièrement intéressant. Il dure, je sais pas, une heure et demie, deux heures. Donc on peut dire dans ce film beaucoup plus de choses que ce que je peux dire ici. Alors le début du cinéma, je n'y reviens pas. On a vu Thomas Edison et cette danse. Le personnage homosexuel qui est présent parfois dans des films western, avec des cow-boys qui jouent au revolver de manière efféminée, peu importe les films 1912-1923. Alors, la mise en place du cinéma parlant va presque accroître les clichés qui seront colportés par la société à l'égard des homosexuels. On va voir des personnages qui seront qui sont maniérés, affectés et qui doivent faire rire le spectateur. Ainsi, on a des seconds rôles du théâtre qui vont aider à la décoration au costume. Dans le film Broadway Melody, on a un décorateur pour le théâtre et dans Myrthe and Marsh, on a un costumier. Et les manières sont efféminées à tel point que une danseuse dit dans Myrthe et Marsh au décorateur, au costumier plutôt, et ne met pas les costumiers. Donc l'homosexualité toujours peut être tournée de manière amusante, mais pas toujours, puisque quand même Greta Garbo dans La Reine Christine n'est pas prise comme amusante. On a Marlène Dietrich aussi, qui dans Cœur brûlé de Joseph Sternberg. Donc qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Quelle est son action? Elle va chanter avec un smoking d'homme dans une boîte de nuit et ensuite elle va s'approcher d'une table et donner un baiser sur la bouche d'une autre femme. Donc là, aucun doute, il y a une identité homosexuelle qui apparaît. Bon, on a aussi Rebecca d'Hitchcock en 1940. Là, c'est une scène absolument extraordinaire. On a une femme de chambre, une gouvernante qui aimait vraiment une première femme du patron de la maison. Et quand la seconde femme arrive, elle l'emmène devant le vestiaire de la première femme. Elle sort un manteau en fourrure et elle commence à caresser la manche sur sa joue. Et ensuite, elle frotte aussi la joue de Joan Fontaine. Donc là, c'est vraiment une scène extrêmement originale, extrêmement prenante, qui véritablement montre comment Hitchcock est le roi pour filmer l'ambiguïté. Alors, j'ai parlé des damnés tout à l'heure. On va écouter la musique des damnés. Voici. Le code Hays, qui s'applique des années 30 aux années 60, va proscrire l'homosexualité. Ce code, en fait, a été demandé par l'association des producteurs et réalisateurs qui voulait garder un caractère familial au film et ne pas voir apparaître une violence, une pornographie, une atteinte à la religion et surtout ne pas accepter une homosexualité. Sans parler le plus fort des mariages interraciaux qui, effectivement, posait problème à ce moment-là. Alors, la manière dont on traite les acteurs ou les actrices homosexuelles révèle bien que l'on ne veut pas faire apparaître cette homosexualité à l'écran pendant le règne du code Hays sur trois décennies. Alors, on va même cacher l'homosexualité de certains acteurs et vouloir, si des journalistes vont un petit peu trop loin, leur dire « Attendez, ça, vous ne pouvez pas le dire ». Et on ne va pas accepter, on va vous poursuivre. Alors, on peut citer comme cas le fait que Rock Hudson est homosexuel et toutes les femmes dans le monde l'admirent. Et on va découvrir au début des années 80 qu'il est homosexuel parce qu'il aura le sida. C'est le premier acteur célèbre qui a eu le sida et donc on a révélé son homosexualité. On avait aussi Anthony Perkins, on avait Montgomery Clift. On avait aussi, alors là, on peut discuter sur homosexualité ou bisexualité, quelqu'un comme James Dean. Aussi une hésitation, mais là, on a deux, trois photos, donc je ne sais pas si ça peut être crédible. Randolph Scott et Cary Grant, qui habitaient ensemble. Bon, la même chose a été faite pour Henry Fonda et James Stewart. On ne les a jamais accusés d'homosexualité. Alors, l'ambiguïté qui peut apparaître à l'écran tient à ce qu'on ne veut pas, en application du code ACE, montrer de manière trop évidente l'homosexualité qui est à l'écran. Donc voilà pour cette première partie, et je vous donne rendez-vous pour la seconde bientôt. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Grégor. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes! Thank you.